Après avoir passé beaucoup de temps à travailler sur les concepts, l'histoire de la laïcité, et mon arrière-grand-père a été un des fondateurs de la laïcité, etc., j'avais envie de vraiment voir ce qui se passait sur le terrain, et à partir du sujet de l'enseignement des faits religieux. Donc, ça va être en effet un témoignage à partir de ce que j'observe ce soir d'ailleurs j'y retourne à Chanteloup-les-Vignes, à Trappes, à Limay, ou à Vaux-en-Velin, ou à Oyonnax, ou à Arras, ou à Nice, sur cette question du religieux, et avec notamment une grande interrogation. Mais alors, est-ce qu'on est obsédé par l'islam, ou est-ce que vraiment il y a des problèmes spécifiques? Donc je voulais savoir un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Alors, nous serons tout à fait d'accord avec Philippe Fauré que l'enseignement des faits religieux ouvre la voie à la connaissance. Parfait. Qu'en plus, il favorise l'esprit critique à partir du moment où on met en présence plusieurs religions. Et il souligne aussi ce qui peut être des valeurs universelles à travers des traditions différentes. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, étant donné l'actualité, les attentes des uns et des autres sont contradictoires à l'égard de cet enseignement. Connaissance, oui, d'accord. Paix sociale, certains l'ont pensé. Transmission du religieux, certains le pensent aussi. Donc c'est des attentes vraiment contradictoires. Par ailleurs, on l'a vu, je ne continuerai pas, la définition du religieux, mais il ne suffit pas en effet d'être dans les religions du livre. Ce serait beaucoup plus intéressant de savoir si les familles des élèves viennent de sociétés théocratiques ou non. C'est là la grande différence. C'est pas dans des analyses théologiques entre telle ou telle religion, mais quand vous venez d'une société théocratique où tout est gouverné par la religion, tout est imprégné de religion, c'est évident que débarquer dans une société laïque peut être même considéré comme une violence. Et l'école, les institutions, vont être vraiment sur la ligne de front de cette confrontation avec tout ce que nous avons dit, et Philippe Fauré l'a dit ce matin tout à l'heure très bien. Nous avons des définitions qui ne vont pas forcément de soi pour une majorité de nos élèves et de parents d'élèves dans certains quartiers. Donc, et par exemple, le corps est au cœur des interrogations. La police des corps dont Foucault parlait, elle passe par le religieux pour beaucoup d'élèves. Et donc s'interroger sur la citoyenneté démocratique, s'interroger sur la libération des corps est absolument essentiel dans l'enseignement. Et quand j'ai travaillé sur la liberté d'expression religieuse dans une société laïque avec les différents dignitaires des religions, ils étaient, c'était très facile de voir comment la laïcité répondait à leurs revendications sur le temps du religieux, l'espace du religieux. Mais dès que je leur ai proposé ce que j'ai appelé la troisième colonne et la quatrième colonne du religieux, c'est-à-dire le corps et le religieux, et le statut des personnes et le religieux, c'est là où tous les problèmes sont apparus et on n'a pas pu travailler jusqu'au bout. Alors oui, les attentes sont contradictoires et aujourd'hui il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est les réactions face à cet enseignement des faits religieux. Je vais caractériser, puis après vous verrez comment, à partir des paroles des élèves, à partir des paroles des enseignants et d'autres professionnels, nous arrivons peut-être à mieux analyser ce qui se passe avec ces jeunes sous emprise, ces jeunes en voie de radicalisation ou déjà bien embrigadés. Et ça s'exprime à l'école, pas seulement à l'extérieur de l'école. Oui, une première interrogation qui est une sorte de contestation de l'enseignement des faits religieux, qui réduirait l'aspect spirituel à quelques données historiques et à des messages édulcorés. Je cite, « des siècles de croyances et de civilisations réduits à quelques heures pour les nuls ». C'est un problème parce que dans l'école laïque d'il y a encore 20, 30 ou 40 ans, la religion était un objet de connaissance qui traversait toutes les disciplines. Aussi bien l'histoire des sciences que la littérature. La première pièce dans laquelle j'ai joué, c'était l'annonce faite à Marie. Nous étions en classe de 5e, entre nous 3 heures de spectacle, classe de 5e, et le professeur de lettres avec qui on avait répété l'annonce faite à Marie, était communiste. Et ça ne posait aucun problème dans l'école laïque à l'époque. Parce que les distinctions dont nous avons parlé tout à l'heure, elles étaient tout à fait intégrées. Le deuxième point de contestation, c'est que cet enseignement encouragerait une vision mythologique des religions. Ça rejoint tout à fait ce que disait Philippe Forêt tout à l'heure. À l'exemple de la mythologie grecque ou égyptienne, et ce qui intéresserait les élèves, ce seraient des récits, les récits fantastiques avec des personnages, mais cela ne répond absolument pas aux questions qu'ils se posent à propos de la religion. Des prescriptions et des interdits religieux sur la sexualité, le mariage, l'apostasie, le blasphème, l'homosexualité. La troisième contestation que j'ai entendue, c'est l'accent mis sur les religions du livre, qui ne conduit pas à une approche anthropologique du fait religieux, ni à un traitement équitable entre les religions. Donc, la question a été posée, je la reprends, c'est tout, mais comme quelque chose qui est souvent posé... Aujourd'hui, il y a suffisamment... la France est le premier pays musulman d'Europe et nous avons actuellement entre 700 et 800 000 bouddhistes en France et ça représente plus d'1 milliard d'hommes dans le monde. C'est vrai que ça vaudrait peut-être la peine d'en parler de temps en temps. Et la quatrième contestation, ce serait un enseignement qui minimiserait la spécificité du religieux. Les enseignants ne pouvant pas parler autrement qu'à travers... des textes littéraires, historiques, de façon distanciée, ça nous a été très bien dit. Or, les attentes des parents, ce serait peut-être que l'enseignement du fait religieux éloignerait les élèves de la religion. Je cite, « Faites beaucoup d'enseignement des faits religieux, quelques heures, vous verrez, ils deviendront de plus en plus indifférents à la religion. » Donc ça, c'est des critiques, que j'ai des contestations. Mais le dernier argument, je le retiens, parce que c'est celui que des familles, des quartiers dissensibles et concernant l'islam, est un argument qui revient tout le temps. Comment des non-croyants, comment des chrétiens, parce qu'ils sont laïcs, pourraient parler de notre foi ? C'est-à-dire, c'est une vraie contestation de légitimité des enseignants à parler des faits religieux, sauf comme ils le faisaient autrefois à travers la littérature, l'art, etc. Il y a derrière aussi la peur que les élèves adoptent des mœurs, entre guillemets, à l'occidental, et avec des parents qui, à l'inverse, vont renchérir sur des pratiques rigoristes pour des raisons identitaires. Autrement dit, l'école est souvent accusée de ne pas savoir traiter les évolutions actuelles de l'expression du religieux chez les élèves. Alors le retour de certaines pratiques où se mêlent l'identitaire et le religieux, le développement des intégrismes avec leur cortège de violence et de racisme, interpelle tous les éducateurs. Si le départ en Syrie ne concerne qu'un petit nombre de jeunes, parents et enseignants sont inquiets. Et je voudrais dire à quel point j'ai rencontré beaucoup de familles qui pleuraient tellement ils étaient dans la crainte sont inquiets face à la radicalisation de certains élèves qui n'hésitent plus à être dans une attitude de rupture, rupture à l'égard de la culture scolaire, rupture à l'égard de la culture de leurs parents qu'ils considèrent comme faible, et donc avec aussi un refus des règles de la vie scolaire. Mais on pourrait dire plus largement des règles des institutions dans lesquelles ils sont. Si on ne voit pas les évolutions actuelles et leur rapidité, je crains que l'on ait des situations de violence difficiles à gérer. Je suis donc dans une recherche-action, recherche-formation, dans des coins particulièrement difficiles sur les questions de jeunes sous emprise, avec des formes de radicalisation dans des villes où, par exemple, en 6 mois, on a vu 8 filles et 11 garçons disparaître. Et on sait que c'est lié à la radicalisation. Et dans ces coins-là, les enseignants, les gens de la PJJ, les gens des centres sociaux, mais aussi, c'est une convention entre plusieurs ministères et la préfecture des Yvelines, on essaye simplement de comprendre. Et surtout de ne pas entrer dans les discours des médias ou des politiques. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler. C'est particulièrement difficile parce que, on l'a vu par exemple au moment du respect de la minute de silence, beaucoup d'enseignants n'ont pas su expliquer ce que pouvait signifier une minute de silence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est désarmé actuellement sur ces questions et que la dimension culturelle et religieuse vient comme une zone de fracture par rapport à nos enseignements. Alors un petit sourire, le mot radical, je n'aime pas beaucoup le terme radicalisation et encore moins déradicalisation. Je reviendrai là-dessus. Vous vous souvenez le terme radical, ce que ça signifiait il y a encore quelques années? C'était un parti centriste, le plus laïque qui soit. Les pourfendeurs de la laïcité, on les appelait des radicaux. Ben, aujourd'hui, donc, ça a changé de sens. Alors, les premières réponses de l'éducation nationale apportées à des phénomènes dont, pour le moment, on va dire radicalisation, mais moi, je dirais plutôt de jeunes sous emprise, sont manifestement mal adaptées. Quelques signes, des signes extérieurs, et avec une équation simple, si on relève quelques signes, hop, telle réponse. Si c'était si simple, et on commence maintenant à s'apercevoir que c'est au moment où disparaissent les signes extérieurs que la situation devient la plus dangereuse. Par ailleurs, j'aimerais simplement dire, je ne crois pas qu'on peut contenir une idéologie conquérante, car nous avons affaire à une idéologie conquérante par la sanction. Je ne crois pas non plus qu'on peut éradiquer un phénomène aussi important par des prises en charge individuelles. Oui, c'est bien d'avoir des prises en charge individuelles, mais on ne répond pas au phénomène qui est actuellement en train de se développer. Et tout le monde dit, mais l'école, que fait l'école? Oui, chacun s'accorde sur le rôle essentiel de l'école, c'est vrai. Mais comment peut-elle agir? Les quelques heures d'enseignement des faits religieux, c'est bien, il faut les faire, mais c'est inopérant face à ces phénomènes. Le rappel de la laïcité dans des discours abstraits, ça ne passe pas. Et derrière tout cela, il y a tous vos mots, de toute façon, on n'en veut plus, ils sont piégés, on les utilise dans tous les sens. Or, eux-mêmes vont être l'objet d'une grande manipulation que je vais vous décrire. Ou d'ailleurs, le manipulé va devenir à un moment donné manipulateur et propagandiste. Donc on a essayé avec donc tous les professionnels que je vous ai cités, mais aussi avec des élus, avec un comédien avec lequel je travaille, qui est assez connu, pas la peine de vous dire le nom, et moi-même d'utiliser d'autres moyens de parler. Parler pour essayer de comprendre. Et parler, ça veut dire travailler sur des supports qui ont été faits par des jeunes d'école d'art, d'art appliqué. C'est très important de passer par les expressions visuelles, auditives, etc., par des musiciens, à partir des sites que les jeunes, justement, sur lesquels les jeunes vont en permanence. Donc nous avons ainsi un support audiovisuel. Nous montons des scénettes où les gens vivent des scènes qu'ils rencontrent en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit à Nice, à Arras ou dans les Yvelines, nous avons exactement les mêmes comportements, les mêmes attitudes et les mêmes slogans. Simplement avec notre support, je peux vous dire que les professionnels les plus aguerris, ils sont si bien faits que quand on leur présente, déjà 3 minutes après, ils sont déjà dans l'attraction. Ils ont envie d'en savoir plus. Car nous avons vraiment beaucoup d'années de retard. Ceux qui fabriquent les sites qui embrigadent les jeunes actuellement sont des gens, ce sont d'excellents designers, ce sont de bons musiciens, ce sont des personnes qui connaissent parfaitement l'informatique et tous les réseaux Internet. Alors, l'emprise, un processus, mais un processus dont l'essentiel est invisible dans la première partie. L'invisibilité du processus d'emprise. Le processus d'emprise religieuse se déroule en plusieurs étapes qui obéissent à des significations programmées avec une stratégie très claire. Le processus doit être invisible pour l'entourage. Alors, 3 points essentiels, constats récurrents partout. La rapidité de la radicalisation par le cyber-endoctrinement. C'est pour ça que maintenant, tous les religieux se précipitent pour essayer de faire de l'interreligieux, mais ils sont déjà dépassés. C'est pas le religieux local qui va pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment le cyber-endoctrinement qui, aujourd'hui, est le moyen le plus efficace. Donc, la rapidité de la radicalisation, nous avons pu déjà, à partir de plus de 200 entretiens, on a à peu près les mêmes choses. Quelques jours, voire 1 à 2 semaines. Donc vous voyez, l'école a le temps long pour les analyses, mais ces jeunes sont dans un processus rapide. Le deuxième point, l'aveuglement de l'entourage, qui n'a jamais rien vu venir. Ni les professionnels, ni les parents, ni les camarades de sport, etc., n'ont vu venir la chose. Et d'où, vous savez, ces interviews à la télévision. Mais il était poli, il était gentil, il souriait, il nous tenait les portes. Ah oui. Le troisième point, c'est le rôle déterminant des nouvelles technologies de la communication. Et ces nouvelles technologies de la communication nous entraînent dans un rythme d'images, de slogans, de musique qui est extrêmement efficace, mais je vais le dire tout à l'heure, qui rejoint tout à fait des techniques millénaires des religions. Mais en travaillant donc maintenant, voilà, les sites, les jeux vidéo, les clips, on mesure l'attraction de l'image, du son, des montages. Vous voyez que eux sont déjà en plusieurs dimensions, qui renforcent, et c'est là la force, c'est qu'on a tous les supports, mais il y a une logique manichéenne, pure et impure, croyant et impie, soldat de Dieu et apostat, les clichés prennent appui sur les archétypes auxquels toutes les religions ont eu recours. Alors je peux presque vous le mimer. La lumière qui surgit des ténèbres, les éclairs qui suggèrent la puissance, l'armure de ces guerriers qui sont des chevaliers de la pureté, la main tendue, voilà, je peux la faire, elle est comme ça en permanence, la main tendue vers celui qui se sent humilié, pas reconnu. Le symbole des oiseaux, de l'envol des oiseaux. Le virtuel confère à ce symbolisme, très simplifié, une force qui peut atteindre des jeunes de cultures extrêmement différentes. Il y a une adaptation selon les régions culturelles. Et il y a une adaptation selon le genre, garçon ou fille. Mais il est curieux que ces archétypes sur lesquels s'appuient donc ces supports, cette propagande, etc., par son graphisme, par les codes visuels qui sont utilisés, sont inspirés de quoi ? De la culture américaine. Et c'est particulièrement intéressant, des films américains, des séries américaines, mais aussi des BD. On se croirait dans Marvel, je pense que vous avez tous lu Marvel. Et curieusement, je suis allée voir. Nous avons maintenant des supports qui reproduisent les spots destinés à l'enrôlement des futurs Marines. Ce sont les spots de l'armée américaine pour l'enrôlement. Et c'est les mêmes techniques. Alors, l'endoctrinement se déroule en plusieurs étapes, chacune marquée par des mots-clés. Vous voyez, pédagogiquement, c'est très intéressant. Je cite, « Toi qui es isolé, humilié, je te reconnais. Je vais te montrer un monde sans corruption, ni perversion, ni injustice, un monde de fraternité. » Je vous dirai après, les images de barbarie vont être balayées par ces discours-là. La barbarie ne va plus gêner une fois qu'on est dans ce discours. Il faut rompre avec tes amis, ta famille, ton identité, en changeant d'apparence, de nom, de façon de vivre. Tu deviendras alors un héros, un homme nouveau. Toutes les religions, toutes les pensées, aussi totalitaires, ont parlé de l'homme nouveau. Tu porteras la promesse d'un monde purifié, transformé, et ton martyr ouvrira les portes du paradis à toi, à ta famille, à tes amis. Avec nous, tu terrasseras le dragon du mal. Eh bien oui, ça marche. Y compris, et ça c'est ce qui m'a frappé, chez des gens qui semblaient au départ les plus dans un esprit critique, parce que c'est très bien fait. C'est Star Wars. Or, l'un des fils rouges de cet embrigadement est l'image d'un univers fortement sexué. L'homme viril, le guerrier, le martyr, mais il a besoin de sa femme, soumise, dévoué, mais sans laquelle il ne pourrait pas devenir un héros. Et donc, la femme accède à l'héroïsme en étant l'image du dévouement au héros. Mais de temps en temps, elle peut devenir martyre à son tour. C'est souvent celle qui a été souillée au préalable. Et c'est une façon de retrouver le chemin vers la pureté. Alors la complémentarité dissymétrique des rôles de genre devient fondatrice de cet intégrisme qui prétend combler un vide, un manque, un mal-être. Oui, mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous n'avons pas vu cette vulnérabilité. Et là, les questions sont posées aux professionnels. Là, les questions sont posées, quels qu'ils soient, hein, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux. Pourquoi on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Car il y a un terreau fertile. Alors maintenant, je vais vous parler des séquences soigneusement programmées. Ces diverses séquences du cyberendoctrinement peuvent se résumer ainsi. La première séquence, c'est la séduction, la persuasion, l'implication et l'adhésion à un groupe secret. Tout cela à partir d'algorithmes, puis d'une communication ciblée via Internet. Ne minimisez pas l'intelligence stratégique de ceux qui mettent cela en place. Le deuxième stade, c'est l'illusion du choix possible de sa destinée. Tu seras maître de ta destinée. Il suffit de cliquer sur telle ou telle icône, les termes sont intéressants, et tu deviendras libre. On a une image extraordinaire sur l'un des sites, on voit toutes les icônes Internet, un jeune de dos, la lumière vient des icônes d'Internet et il choisit en cliquant sur l'une ou l'autre. Le troisième, vous voyez, je suis plus dans les... Moi, j'en avais assez, des concepts sur la laïcité. Ça fait trop de temps que je travaille là-dessus, donc je voulais un petit peu voir comment les choses se passaient. La troisième étape, c'est la dénonciation d'un monde de mensonges, de complots, de dépravation, de corruption. Alors là, la théorie du complot, parfait. Vous connaissez ça, c'est la théorie du complot. Mais c'est aussi, tu sais ce qu'on t'apprend à l'école. C'est pour que vous pensiez tous pareil. Et la culture scolaire, ce qu'on t'apprend à l'école. Qui est-ce qui manipule ? Il y a même des choses intéressantes. Qui publie les livres scolaires ? Vous avez bien vu derrière, il y a des groupes financiers. La quatrième étape, c'est celle de l'émancipation. On s'émancipe de l'ancien monde pour devenir donc un homme nouveau, un homme véritable, à partir de la rupture, les différentes ruptures avec l'entourage. Et la phase ultime, c'est la rupture avec sa propre identité. L'importance du nom. Quand on change de nom, on change de corps, on change de nourriture, on change de vêtements, on change de coiffure. La cinquième séquence, c'est l'engagement au service de la cause. Et là, contrairement à ce que vous croyez, la cause, ça n'est pas la cause de la barbarie. C'est la cause de l'humanitaire. On va nettoyer le monde. On va le purifier. Donc si vous arrivez avec des discours, mais c'est terrible, c'est barbare, etc., vous renforcez et la théorie du complot en disant tout ça c'est des mensonges, et en même temps, vous renforcez la volonté de s'engager, de se mobiliser, et avec, on l'a sur les sites, la guerre médiatique est engagée. L'humanitaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les associations humanitaires sont terriblement attaquées par ces sites du cyber-endoctrinement, et ils risquent leur vie actuellement, le style Médecins sans frontières, etc. Parce qu'il y a d'autres groupes humanitaires qui veulent se mettre en place. Tout le monde ne part pas, bien entendu. L'immense majorité est là, avec nous, mais elle vit à travers le virtuel. Elle vit dans le virtuel. Alors la sixième étape, alors là c'est une illumination. C'est des groupes qui se présentent comme des guerriers. Dark Vador est terrassé, le mal est terrassé, comme cela est écrit, comme cela s'est toujours produit dans l'histoire, parce que Dieu est avec nous. On le voit, la progression de l'endoctrinement se présente comme un chemin initiatique. Qu'est-ce qui reste d'initiatique dans notre société ? C'est une promesse de dignité, toi qui n'es pas reconnu. C'est une promesse de félicité, un bonheur est là, très important. Ils sont tous contre la société de consommation. Et nous, on fait semblant de croire qu'ils sont toujours... Oui, ils ont besoin de la société de consommation pour leurs écrans et leur téléphone portable. Mais le reste, ils ont des phrases très dures sur la société de consommation, qui est une société d'impiété. Et alors, ce qui est terrible, c'est que les enseignants, les parents, les travailleurs sociaux qui n'ont rien vu venir ont exactement la même attitude que les parents d'enfants qui se droguent ou qui se suicident. Et c'est, on a travaillé avec des psychologues, ils nous disent, c'est exactement la démarche du suicide chez ces jeunes. On a une première, le mal-être, l'isolement, l'inquiétude. Ça, c'est la première phase. Vous avez une deuxième phase, on va se rendre visible. Entre nous, l'idiotie de s'arrêter au signe visible, c'est de ne pas voir qu'il y a une troisième phase. Et dans la troisième phase, on ne se rend plus visible. On devient gentil. On se noie dans la foule. Et c'est ce que les psychologues appellent la phase de la détermination, comme celle qui précède le suicide. Et à ce moment-là, quand il y a cette détermination, il y a quelque chose qui peut se passer. Et il y a derrière tout ça, un jeu avec la mort qui fait que on a voulu les protéger, nos petits. On a voulu les gaver d'objets de la société de consommation. Et maintenant, ils vous renvoient les questions fondamentales qui sont traitées dans les religions sur la raison de la souffrance, pourquoi la mort, le don de soi, etc. Alors, nos réponses à ce pouvoir d'attraction. L'image présentait une image biblique dans les commentaires de ces sites. Je lance un filet, quelques poissons resteront attrapés par mon filet. Alors, j'essaie d'avancer, cette attraction est si forte parce qu'enfin on va devenir quelqu'un, enfin on va exister, enfin on va être reconnu, enfin on va faire don de soi. Que, comme je vous le disais, les images horribles, soit on les minimise avec la théorie du complot, et ça marche bien, soit on dit c'est le prix à payer. Alors si vous arrivez avec un discours moralisateur, si vous arrivez avec un discours de jugement de valeur, comme ça, sans tenir compte de tout le reste, vous renforcez. Vous voyez, vous êtes dans le faux, vous êtes dans l'impureté, vous ne savez pas, et à ce moment-là, au contraire. Et vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas embrigadés, ça a une force extraordinaire de prosélytisme. Je n'ai pas le temps de traiter la question des filles dans ce monde virtuel, mais vraiment, c'est navrant. On retrouve tous les clichés les plus traditionnels du rôle des filles, et dans lesquelles ces filles revendiquent le fait d'avoir choisi d'être là. Vous savez comment on fait? On leur présente 3 ou 4 photos de personnes qu'elles ne connaissent pas. Et on leur dit, voilà, tu choisis celui avec lequel tu vas te marier et tu vas avoir des enfants. Et elles appellent soi le vrai choix. Alors, eh bien évidemment, ça demande une autre pédagogie. Tout ce que nous faisons, c'est bien, il ne faut pas l'abandonner. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à prendre en compte ces aspects nouveaux du cyber-endoctrinement pour essayer d'être quand même un peu plus efficace, un peu plus efficient, pour aussi éviter qu'il y ait trop de jeunes qui soient dans des situations de souffrance, de familles qui sont dans un désarroi terrible, et d'enseignants qui, à juste titre, disent, d'enseignants ou de gens de la PJJ, à la PJJ c'est pas mal, hein, Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Alors, je ne crois pas à la déradicalisation. Je pense qu'il est possible de prendre en charge des personnes, tout à fait, et c'est très bien. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est bien de prendre en charge des personnes. C'est bien de leur montrer que peut-être dans le monde réel, ils pourront trouver leur place. Entre nous, quand du monde virtuel, ils se retrouvent dans le monde réel à des milliers de kilomètres de là, ils peuvent déchanter, mais finalement pas majoritairement. Là aussi, on se fait des illusions. Vous savez, le nazisme, le stalinisme, les mouvements d'embrigadement où on pensait au nom d'une idéologie ou au nom d'un dieu, on a massacré en pensant qu'on faisait ça pour le message d'amour du Christ ou pour l'avenir des hommes et de l'humanité. Donc ça nous oblige à faire que peut-être, on a essayé, on commence seulement maintenant, de voir comment on pourrait répondre sur le plan pédagogique. Mais il faut être conscient que nous nous heurtons à un bloc idéologique qui part en guerre contre les valeurs des Lumières, qui part en guerre contre la laïcité, qui part en guerre contre l'école de la République, qui part en guerre contre... Et là, je vais citer ce qui finalement fait la laïcité, une philosophie des droits de l'homme, qui part en guerre contre une éthique de la responsabilité, comme disait Paul Ricoeur, qui part en guerre contre un corpus juridique qui essaye de faire droit à une pluralité de demandes, de revendications spécifiques dans l'intérêt général. Mais faut-il être persuadé de l'intérêt général et du bien commun ? Une méthode de pensée fondée sur la raison. Mais vous avez tort, c'est pas la raison. Nous, nous avons la vérité. Qui part en guerre contre l'idée du débat. Et c'est aussi une façon de refuser d'agir dans le pluralisme et le respect de l'autre. C'est aussi le rejet de la pensée scientifique, de la création artistique et du corps libéré. Ça ne gêne personne aujourd'hui que l'on masque les statues. Ça ne gêne plus personne qu'on ne puisse plus aller au Louvre, au département des antiquités grecques avec certains élèves. Ça ne gêne personne que moi je ne puisse pas les emmener au département d'art d'islam. Parce que vous savez, madame, ici on représente le prophète. Ben oui, il y a des époques de l'islam, on a représenté le prophète. Et oui, mais aussi, vous savez, c'est fait par qui? Le Louvre. C'est les juifs qui ont fait le Louvre. Donc à chaque fois, vous avez les réponses. Oui. Et donc, voilà, je pense qu'on a des outils à l'école. Ben, utilisons par exemple le débat argumenté. Essayons de travailler sur le virtuel et le réel. Et là, on a plein de textes, plein de moyens de le faire. Sur la libération du corps. Essayons de travailler sur le sentiment d'humiliation, la vulnérabilité, à travers des textes littéraires, à travers des langues étrangères. Travaillons beaucoup sur la victimisation qui est le terrain fertile. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin de cette jouissance, ce que j'appelle la jouissance du paternalisme. Il faut que nous ayons des victimes pour se sentir supérieurs. Et alors, je n'ai pas le temps, il faut essayer de réfléchir, on a tous les éléments. L'héroïsme, le don de soi, l'altruisme, l'idéal. Oui, mais on peut travailler dessus. Le décryptage des images avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les moyens de communication utilisés, la lutte contre le complotisme, le doute, l'esprit critique, la distinction entre raison et émotionnel, la conséquence des paroles et des actes quand des jeunes disent telle chose, on dit d'accord. Ça se traduit comment dans les actes? Comme ils sont dans le virtuel, les paroles n'ont pas de conséquences. Et puis, évidemment, la mixité sociale et de genre. Pourquoi ces choses apparaissent ? Je travaille actuellement dans des lieux où on me dit chrétienne, blanche, française. Dans des lieux extraordinaires. Les Mureaux, c'est beau, c'est un magnifique paysage. Il y a le pôle Molière, où il y a tout. Crèche, théâtre, salle polyvalente, salle de sport. La rénovation urbaine autour, magnifique. Et en plus, ils sont fiers d'être là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il est aussi important de travailler avec les parents. Mais ce n'est pas la peine de partir avec un postulat faux. On l'a fait à Vénissieux il y a peu de temps. C'est très intéressant. Le travail avec les parents, c'est à long terme. Hein. Nous en parlions tout à l'heure. Mais il faut travailler sur leur responsabilité en tant qu'éducateur. Leur présenter ce que c'est qu'une société laïque. Moi, je fais 3 jours sur la laïcité à Bourg-en-Bresse pour la rentrée. Si vous n'expliquez pas au départ, ben, ils vont ressentir ça comme une violence. Et puis, travailler avec les enfants sur Internet, quand même. Essayer de voir qu'est-ce qu'ils voient. Leur poser des questions. Alors, oui, signaler certains signes de repliement, de visibilité, de changement de comportement, etc. Mais faisons attention. Il y a plein d'adolescents, nous peut-être les premiers, nous n'avons pas arrêté de faire des expériences vestimentaires, alimentaires et autres au moment de l'adolescence. On ne va pas ficher tout le monde. C'est comment on l'interprète par rapport à autre chose. Je pense à ce qu'on dit. Vous savez qu'il y a un numéro vert, anonyme, gratuit, et où on parle de ces questions-là. Et alors surtout ne pas croire que bloquer les sites, c'est la solution miracle. Si vous saviez comment ils savent en créer d'autres, au contraire, vous bloquez les sites parce que vous êtes dans le mensonge et vous ne voulez pas voir la vérité. Excusez-moi, je suis un peu dans leur parole, donc vous allez bientôt me croire sous emprise et je me termine. Donc, c'est très proche des dérives sectaires. C'est très proche de certaines violences idéologiques que nous avons connues et de totalitarisme. Alors, il est temps qu'on parle un peu plus du progrès des libertés, des valeurs universelles, de l'égalité filles et garçons, de ce que ça apporte à la création et à l'esprit scientifique, que d'être dans une démarche de liberté. C'est aussi... Là, c'est clair. L'école, l'enseignant seul dans sa classe, il ne peut pas. Il ne peut plus travailler. L'école seule ne peut pas travailler sur ces questions-là. Nous l'avons vu très bien ensemble. Voilà, je vous cherchais à Vénissieux. On commence à pouvoir faire des choses si on parle de tout cela avec les différentes personnes qui sont autour de l'école et avec les élus. Qui maintenant paniquent. Les élus de ces villes paniquent. Donc, c'est au fond un merveilleux programme d'école laïque que nous retrouvons et à valoriser. Et personnellement, je pense que si on permettait aussi bien de monter des pièces de théâtre que de faire de la musique, que de faire du sport sur... des socles fondamentaux, on y va carrément, si on utilise tous les supports de la pensée, si les jeunes ont le droit à la parole, etc. J'ai vu dans d'autres pays quand même des endroits où les élèves avaient un droit à la parole beaucoup plus important qu'en France et au débat argumenté. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, je vais vous quitter après parce que je repars, je vais me retrouver à l'hôtel Ibis de Poissy avant demain aller à Limay, puis à Chanteloup-les-Vignes, mais je vous assure, il y a des moments de rencontre extraordinaires. Est-ce qu'on se permet ces moments de rencontre ?